Bien, nous ouvrons donc à nouveau la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse et nous allons lire au chapitre 21 les quatre premiers versets. Apocalypse 21. Donc commençons au premier verset. L'apôtre Jean écrit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons vu donc au chapitre précédent que Jean vient décrit. Le jugement de toutes choses avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous présente maintenant un futur où tout ce qui est lié au péché, tout ce qui est lié à la chute a été enlevé. Tout ce qui est marqué par la vie de ce monde actuel, tout ce qui est maudit sous la malédiction dans ce monde actuel, dans ce premier monde, a été supprimé, premier mot sur la feuille. Et dans ce nouveau monde, nous allons voir, nos ennemis spirituels ne sont plus. Notre propre corruption, pardon, n'est plus. Notre propre pollution par le péché n'est plus. Les misères et les futilités de cette vie qui est sous la malédiction de la mort, tout cela aura été enlevé, aura disparu. En renversant les effets de la chute, Dieu va manifester pleinement sa victoire et il va accomplir ce but original que nous lisons au verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, certaines versions précisent. Et il sera leur Dieu. Tout d'abord, donc, le premier point, un nouvel environnement. Deuxième mot sur la feuille. Et le verset 1, donc, commence avec un des grands encouragements pour les croyants. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la Bible est claire à ce sujet. Quand le Seigneur Jésus-Christ revient, le ciel et la terre seront purifiés, seront renouvelés dans une gloire parfaite. La Bible n'enseigne pas que dans l'avenir, nous allons flotter sur des nuages. Non, l'éternité est sur une terre, la terre sur une terre nouvelle, sur une terre purifiée. Tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde, des bureaux, des rues mal fréquentées ou des bureaux où des mauvaises décisions sont prises, des supermarchés où on se marche dessus et on se bouscule, non, tout cela aura disparu. La nouvelle terre, la terre sera renouvelée en gloire. Et notre destination, la destination du peuple de Dieu, son avenir est sur cette terre. Renouvelé. La création entière est renouvelée. C'est le troisième mot sur la feuille. Elle attend ce jour et elle va connaître ce jour de renouvellement. Il y a beaucoup de preuves dans le Nouveau Testament au sujet de cette transformation que l'on peut dire cosmique qui va se dérouler lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 20, nous avons lu la condamnation et le jugement sur Satan et sur ceux qui le suivaient. Et même la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Et quand cela, une fois que cela s'est passé, nous avons la rénovation, le renouvellement de tout le cosmos. Il y a un lien entre l'homme à qui Dieu a donné toute l'autorité de dominer ce monde et la création elle-même. Quand l'homme a chuté, la création elle-même a chuté. Mais lorsque l'homme entrera dans la plénitude de sa rédemption, au retour du Seigneur Jésus-Christ, le cosmos, lui aussi, connaîtra sa rédemption, connaîtra son renouvellement. Et Paul parle de cette libération de la création dans ce passage de Romains chapitre 8, les versets 20 et 21. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Aujourd'hui, la création manifeste la splendeur de Dieu. On reste bouche bée devant un magnifique coucher de soleil ou devant un superbe panorama. Mais ça, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la création qui a été soumise à la vanité. C'est la création qui est soumise à la futilité, qui est passagère, qui a chuté. Alors imaginez ce qu'il en sera quand la création sera libérée. Imaginez quand la création sera affranchie de la servitude de la corruption. Ce sera quelque chose d'encore plus merveilleux que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Certains chrétiens enseignent que l'univers dans lequel nous vivons, que nous connaissons actuellement, sera consumé, sera entièrement supprimé pour être remplacé par un univers nouveau, un univers différent. Et cet enseignement est essentiellement basé sur les déclarations que l'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3. Et au verset 10, en particulier, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et sur la base de ce verset et des versets qui l'entourent, de ce passage, ces personnes disent donc qu'à cause du péché, le monde actuel sera éradiqué, sera détruit. Et sera remplacé par un autre monde, un monde différent. Pour eux, nouveau monde veut dire monde différent. Mais une meilleure approche de ce texte est de considérer que cela parle de purification. Le quatrième mot sur la feuille, c'est de purification. En d'autres mots, au lieu de faire de nouvelles choses, Dieu fait toutes choses nouvelles. Au lieu de faire de nouvelles choses, Dieu fait toutes choses nouvelles. En Matthieu 19, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Il parle de ce renouvellement, de cette régénération de toutes choses. Il parle des nouveaux cieux, il parle de cette nouvelle terre. Et il utilise cette analogie avec ce qui se passe chez le croyant. Quand un pécheur est né de nouveau, il devient une nouvelle création. Mais c'est la même personne. C'est la même personne, mais elle est nouvelle. Il y a un nouveau caractère, une nouvelle puissance, un nouveau principe de vie. Et c'est la même chose avec la création. Et c'est important de souligner, parce que le contraire est plutôt inquiétant. Si à cause du péché, la création originelle était fichue en l'air, qu'elle n'était plus utile à Dieu et que Dieu devait détruire complètement cette création pour la remplacer, alors cela voudra dire que Satan aura remporté une victoire sur Dieu. En Genèse 1, lorsque Dieu a créé le monde, il a vu que tout était bon, que tout était parfait. Mais ce serait terrible si Satan poussait Dieu à perdre tout ce qu'il avait créé. Non, Satan n'aura aucune victoire. Même si ce qui a l'air d'être une victoire pour Satan aujourd'hui sera révélé comme la victoire de Dieu sur Satan. Ce serait terrible de conclure que l'œuvre de rédemption de Dieu inclut le rejet de tout ce qui a été pollué par le péché. Parce que nous, on serait compris dedans. Non, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Non, il est question de rédemption, de renouvellement, de purification de tout ce qui appartient à Dieu. Son peuple, mais aussi le reste de la création. Mais aussi tout ce est renouvelé en Christ. Alors comment comprendre ce passage de 2 Pierre chapitre 3 ? En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et dans le passage, si on revient pour voir le passage en entier, en 2 Pierre chapitre 3, Pierre est en train de souligner une analogie entre le déluge au temps de Noé et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le déluge a détruit le monde d'alors, mais il n'a pas détruit la création. C'est le même monde, cinquième mot sur la feuille. C'est le même monde, mais qui a été purifié par le déluge. Le péché a été jugé, les pécheurs rebelles ont été enlevés. Et c'est la même chose qui va se passer à la fin de l'histoire. Ce sera la purification parfaite et définitive de ce monde au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre utilise le langage de feu, parce que le feu dans l'Ancien Testament était surtout une image de la purification. Et le feu purifie. Le monde dans lequel Noé est entré après le déluge était un monde nouveau, un monde qui était propre. Et de même, au retour du Seigneur Jésus-Christ, le monde dans lequel entreront les croyants sera entièrement nettoyé, entièrement purifié, entièrement pur, propre, nouveau. Et le verset 1 termine ou avec cette déclaration qui résume l'enlèvement de tout mal, sixième mot sur la feuille. Il est dit, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Dans le symbolisme de l'Apocalypse, nous l'avons déjà souligné, mais je le répète, la mer a une signification qui est plutôt théologique que topographique. La mer décrit le royaume du mal, de la rébellion contre Dieu. C'est pour ça qu'elle est sans cesse en mouvement. Et plus tard, on verra une mer de cristal, paisible, paisible. Mais là, cette mer, elle décrit toute la rébellion contre Dieu, et c'est l'image que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Dans le psaume 74, par exemple, au verset 12 et 14, c'est une autre version que je cite ici. « Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi, tu l'es depuis les temps anciens, tu es l'auteur des délivrances en tout lieu sur la terre. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. » Voilà l'œuvre de Dieu. C'est lui qui intervient et qui fend la mer par sa puissance et qui a fracassé les têtes du grand dragon marin qu'il a donné en pâture aux requins de la mer. Pour les Israélites, la mer était ce grand inconnu, cet inconnu d'où vient tout le mal. La mer est la source de chaos, septième mot sur la feuille, la source de destruction, la source de rébellion. C'est pour ça qu'elle est toujours en mouvement. Nous avons vu cela. Par exemple, Apocalypse chapitre 12, nous avons vu le dragon. Et au verset 18, la fin du chapitre 12, nous avons vu qu'il se tenait sur le sable de la mer et il appelle la bête. Et la bête sort de la mer, la bête a 10 cornes et 7 têtes. Et les chapitres 17 jusqu'au chapitre 20 nous ont montré le jugement et l'enlèvement de la grande prostituée, le jugement et l'enlèvement de la bête, du dragon, même la mort de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, on voit que la mer elle-même n'est plus. Que la mer elle-même n'est plus. Cette mer d'où sont venus le dragon et tous ceux qui l'accompagnaient. Le mal et même la possibilité du mal ne seront plus. Ne seront plus dans ce nouvel environnement. Et c'est une nouvelle extraordinairement encourageante. Les gens parfois vont nous dire que nous ne sommes pas tellement différents d'eux. Pourquoi doivent-ils rechercher la sainteté? Ils nous disent, ben, vous commettez les mêmes péchés que nous. Vous n'êtes pas vraiment des exemples de sainteté. Et bien sûr, nous nous lamentons de cela. Nous confessons nos fautes et nos chutes. Mais notre réponse est que nous sommes en route vers un lieu où la mer ne sera plus. Où il n'y aura plus de péché. Où il n'y aura plus de mal. Oui, nous vivons dans ce monde de péché. Mais nous sommes les héritiers d'une gloire sans péché. Et Paul, par exemple, raisonne de cette manière avec les croyants, notamment avec les croyants à Éphèse. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, dit « Autrefois, vous étiez des ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, parce que c'est votre destinée et c'est votre identité. » Ne faisons pas de compromis donc avec le mal, mais vivons selon cette nouvelle identité en anticipant ce jour où il n'y aura plus la possibilité de faire le mal. Et il n'y aura plus de mal, plus de péché, plus de transgression, plus de même de tentation au péché. Jean nous parle d'un nouvel environnement. Deuxième point, il parle des habitants de ce nouvel environnement. C'est le 8e mot sur la feuille. Pourquoi le déluge au temps de Noé n'a-t-il pas réussi à éradiquer le péché de la terre? Parce que Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Le monde après le déluge était nettoyé, était pur, était propre. Mais dès que Noé et sa famille sont sortis de l'arche, l'histoire nous le raconte, ils ont commencé à nouveau à commettre le péché. Et puis on retrouve cette rébellion qui va se manifester, la tour de Babel, etc. Mais dans le monde renouvelé après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus de pécheurs, 9e mot sur la feuille, il n'y aura plus de pécheurs pour ruiner cette nouvelle création. Jean nous dit, verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Il reprend ici le langage d'Ésaïe 62. Ésaïe a vu un temps où Jérusalem sera rachetée, et qu'elle recevra un nom nouveau, comme la mariée reçoit le nom de son époux. Et Jean nous dit, voilà ce qui se passe, non pas à la première venue du Christ, mais à la seconde, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si le verset 1 se focalise sur le renouvellement de la création, le verset 2 se focalise sur Jérusalem, le centre de l'activité de rédemption de Dieu en Christ. Nous voyons la glorification de son œuvre de rédemption. Et Jean nous dit plusieurs choses au sujet de cette ville. La première caractéristique, c'est que c'est la sainteté, 10e mot sur la feuille. Il parle de la ville sainte. Et quand on parle de sainteté, cela ne souligne pas simplement l'absence de péché. Mais cela souligne aussi la splendeur de la réflexion de la gloire de Dieu. La réflexion de la gloire et de la pureté de Dieu. Et c'est déjà la réalité aujourd'hui. Quelqu'un qui est saint, ce n'est pas simplement quelqu'un qui cherche l'absence de péché, mais il cherche à refléter la splendeur, la gloire de Dieu en Christ. Quand un croyant vient à la foi en Jésus-Christ dans ce monde, Dieu le renouvelle par son esprit et le prépare à cette vie future dans la gloire et dans la sainteté. Et l'Esprit le transforme toujours plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, cela révèle beaucoup de choses au sujet de l'Église et de l'Église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens recherchent dans une Église? Certaines personnes veulent une Église où il y a beaucoup de monde. D'autres cherchent une Église qui est à la page ou qui est dans le vent, qui s'adapte. Ou d'autres encore cherchent une église qui ressemble plus à un lieu de divertissement. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il recherche non pas l'affluence, non pas être en phase avec le monde, mais il cherche la sainteté. Jean voit une ville sainte. Ça, c'est la première nature, la première caractéristique de l'Église, la sainteté. La deuxième caractéristique de la ville et de l'Église, c'est que c'est une communauté. 11e mot sur la feuille. Puisqu'il s'agit d'une ville. C'est un rassemblement. On définit une ville par ses habitants, par leur caractère, par leur culture, par la vie qui s'y passe, par l'esprit qui anime les habitants. Et ça montre l'essence de l'Église, c'est une ville, c'est communautaire. Certains pensent, quand ils pensent à l'avenir, à la gloire, ils pensent que l'éternité, c'est une poursuite solitaire de la gloire. Mais non, Jean montre que c'est une expérience communautaire. Une expérience communautaire. Hébreux 12, verset 23, parle de Jérusalem céleste comme l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des esprits des justes parvenus à la perfection. Et Jean voit cette Église sur terre qui est renouvelée, qui est glorifiée, qui est purifiée. Et on ne devrait pas être surpris par cet aspect communautaire de l'Église, puisque Dieu lui-même, si on peut utiliser le terme, est communautaire. Il est trinitaire. La communion des trois personnes de la Trinité, c'est l'essence même de l'être divin. Et la communion dans l'Église n'inclut pas seulement la communion des croyants avec Dieu, mais aussi la communion des croyants ensemble avec Dieu. Ce n'est pas simplement la communion personnelle du croyant avec Dieu, mais c'est la communion ensemble des croyants avec Dieu. C'est une communauté. La troisième caractéristique, c'est que la ville de Dieu est marquée par la grâce souveraine. 12e mot sur la feuille. Je vis descendre, verset 2, du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. L'Église est auprès de Dieu. Parce que c'est son œuvre, c'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a justifié, qui l'a adopté, qui l'a sanctifié par sa grâce. Et maintenant, cette Église va être glorifiée par la même grâce, la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut être certain de ces choses. Ces choses vont arriver parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est sa grâce souveraine qui est à l'œuvre. L'apôtre Pierre, utilise une autre image, 1 Pierre 1, verset 4 à 5, il parle d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes par la puissance à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. L'héritage est réservé et vous, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, versets 4 et 5. Et parce que c'est la grâce souveraine de Dieu qui est à l'œuvre, c'est une chose qui est sûre et certaine. Mais c'est aussi, cela veut aussi dire que toute la gloire revient à Dieu et non pas à l'homme. Et ce n'est pas arrogant de dire ces choses. Non, c'est l'humilité qui reconnaît que Dieu est à l'œuvre. Et l'Église reflétera toute la gloire et toute la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La quatrième caractéristique de cette ville, c'est que cette nouvelle Jérusalem sera marquée par une intimité avec Dieu. Treizième mot sur la feuille. Une intimité avec Dieu, une intimité remplie d'amour. À la fin du verset 2, il voit la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville, cette nouvelle Jérusalem, est marquée par l'amour de Dieu pour elle et aussi son amour pour Dieu. Certains croyants ont des difficultés avec l'enseignement biblique qu'il n'y a pas de couple dans la gloire. Mais c'est ce que Jésus enseigne, par exemple, en Luc chapitre 20. Les croyants disent, oui, mais cela va être une perte. Mais ça ne peut pas être le cas. Dieu a établi des relations terrestres. Il a donné nos pères pour souligner la relation qu'il veut établir avec nous en tant que Père céleste. Il a établi le mariage pour souligner la relation que Christ veut avoir avec chacun des siens qui constitue son épouse, c'est-à-dire dans une intimité parfaite. Tout cela sont des images de ce que Dieu est et de ce que Christ est pour son peuple. L'expérience de la gloire éternelle, nous dit un commentateur, c'est le bonheur d'être parfaitement et éternellement aimé de Dieu. Voilà l'intimité avec Dieu. Le verset 1 nous montre donc les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le renouvellement de l'environnement avec l'éradication de tout mal. Le verset 2 montre les nouvelles personnes qui habitent dans ce nouvel environnement. Ils ne sont plus condamnés, plus sous l'emprise du péché. Et pourquoi donc est-ce que c'est différent du déluge? Pourquoi est-ce que ces Noé de la fin des temps peuvent-ils être relâchés? Parce que en Christ, le peuple de Dieu a été complètement lavé et purifié. 14e mot sur la feuille. Il a été complètement renouvelé, complètement purifié, et il n'est plus corrompu par le péché. Et cela est en Christ et en lui seul. Jean décrit l'Église qui est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jésus a purifié son Église par son sang, par sa mort expiatoire et par l'œuvre de l'Esprit. Il enlève même la puissance du péché. L'œuvre de Christ est si parfaite qu'Ésaïe pouvait écrire en Ésaïe 62, verset 5, « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Dieu se réjouira dans l'Église de son Fils. Pourquoi Jean nous dit-il cela? Pourquoi Jean nous décrit-il ces choses? Pour nous montrer, pour nous révéler notre destinée, pour que cela soit une motivation pour nous ici-bas à rechercher la sainteté, à vivre dans la sainteté, dans l'amour pour Dieu. Le monde, nous, autour de nous, dit que nous ne sommes rien, que nous ne valons rien. Mais nous pouvons lui répondre que nous sommes en route vers une destinée qui est glorieuse. Que nous sommes en route vers une destinée qui est glorieuse. Notre vie présente ici-bas ressemble donc à cette fiancée qui se prépare pour le jour de son mariage. Elle se prépare, elle s'apprête. Le croyant, lui, rechercher la sainteté, présenter les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'il les pratique. Et il va le faire parce qu'il sait que son Sauveur l'aime. Éphésiens chapitre 5, Paul nous dit que c'est ce que Christ fait maintenant, 15e mot sur la feuille. C'est ce qu'il fait maintenant dans la vie de son Église. Il sanctifie son épouse en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, versets 26 et 27. Voilà ce que Christ accomplit dans la vie des siens, dans la vie de son Église. Il l'amène petit à petit à vivre dans cette intimité, et cette intimité qui un jour sera une intimité parfaite, au retour, à son retour dans la gloire. Il y a le renouvellement de l'environnement, il y a les nouveaux habitants de ce nouvel environnement. Troisième grand point, il y a une nouvelle vie. 16e mot sur la feuille. Une nouvelle vie. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de souffrance. Plus de souffrance sous le règne du péché et de la mort. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face, mais plus nous avançons en âge, plus nous devons faire face à la mort. Nous voyons ceux de la génération qui nous précède mourir, puis ceux de notre génération mourir. Cette vie ici-bas n'est pas éternelle. Elle est marquée par la futilité. Elle est marquée par les souffrances, par le deuil, par la mort. Mais le royaume à venir n'est pas comme cela. Et un aspect de la gloire éternelle, c'est justement qu'elle est éternelle. Les choses qui sont présentes ne disparaîtront jamais. Il n'y a pas de fin. Nous ne connaîtrons aucune souffrance, aucune mort, aucune larme, aucune douleur. Le psaume 116, verset 9, nous dit ceci, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Cela nous rappelle que nos amis croyants qui nous ont quitté le monde des mourants, de ceux qui vont mourir, pour aller au pays des vivants. Ce monde n'est pas la terre des vivants. Ce monde est sous la malédiction, sous le spectre de la mort. Mais ces croyants qui sont morts avant nous ont échappé à ce monde. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir avec eux, même si nous pleurons leur absence. La malédiction de la mort va remplir nos yeux de larmes et nos cœurs de tristesse. Mais au retour du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont liés à lui maintenant par la foi connaîtront la plénitude de la vie éternelle. 17e mot sur la feuille. Ils connaîtront la plénitude de la vie éternelle et de ses bénédictions. Et tout cela sans fin. Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et cette vision nous permet de faire face aux afflictions présentes de ce monde. C'est le raisonnement de l'apôtre Paul, encore une fois, en Romains chapitre 8, verset 18 et suivant. « J'estime que les souffrances présentes du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais jusqu'ici, nous avons décrit la vision négativement. Nous avons décrit ce qui n'est plus. Et c'est une bonne nouvelle. Il n'y aura plus la mer de rébellion. Il n'y aura plus de péché, plus de mal, plus de souffrance, plus de larmes. Mais il y a aussi un côté positif. C'est le quatrième point. La présence de Dieu, 18e mot sur la feuille. Verset 3 nous dit, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et Hendrickson souligne ceci. Il dit, « C'est le couronnement de la démarche que Dieu a entreprise pour s'unir à son peuple. La communion entre Dieu et ses élus est si intime qu'il habite, pour ainsi dire, dans la même tente qu'eux, c'est-à-dire qu'il partage la gloire de ses attributs. J'entends la voix qui vient du trône, qui parle du tabernacle de Dieu avec les hommes. Et ça accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est un fil rouge que l'on retrouve dans toute la Bible, Dieu habitant au milieu de son peuple. Ézéchiel 37, verset 27, par exemple. « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais on peut remonter jusqu'à Abraham. Abraham qui attendait l'accomplissement de la promesse. Cela nous est rappelé en Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. » C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il a traversé la terre de la promesse comme une terre étrangère, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Cette cité, cette ville, dans cette ville est rassemblé tout le peuple de Dieu et Dieu habitera avec eux. C'est l'accomplissement, 19e mot sur la feuille, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, mais c'est aussi l'accomplissement, par exemple, de la bénédiction d'Aaron. Nombre 6, versets 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Et dans cette nouvelle cité, cette nouvelle Jérusalem, les croyants se tiendront confiants dans la présence de Dieu, devant la personne de Dieu, comme Adam, avant la chute, sachant que Dieu les accepte en Christ. Et Dieu fera luire sa face sur nous. Il nous regardera avec sa bonté et il fera briller l'éclat de sa grâce sur nous. Nous pourrons nous tenir devant lui sans crainte, nous sachant accepter en Christ. Et cinquième point pour terminer. La vision de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux et de tout ce qui est impliqué. Nous allons le développer dans les semaines à venir, Dieu voulant. Mais tout cela, cette vision, doit nous pousser à vivre avec cette assurance, 20e mot sur la feuille, cette assurance que Dieu accomplira effectivement ce qu'il a promis. Nous sommes, par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu. Nous possédons cette espérance glorieuse. Nous sommes le peuple en qui et avec qui Dieu va habiter en Christ pour toujours. Comment est-ce que c'est possible? La réponse est tout simplement Christ. 21e mot sur la feuille. La réponse est Christ. Christ est venu. Il a vaincu la mort par le péché par sa mort expiatoire. Et il revient pour nous apporter la plénitude de la vie, de ce salut. La ville sainte, l'épouse glorieuse, une vie éternelle, sans larmes, sans douleur, sans souffrance, sans mort. Et nous amener à vivre cette intimité avec lui pour toujours. Qui sera dans cette ville? Qui sera présent? Ceux qui confessent leurs péchés, ceux qui se confient, 22e mot sur la feuille, ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre expiatoire sur la croix, ceux qui croient en lui et en son évangile, ceux-là seront toujours avec lui dans la gloire. Comment vivre aujourd'hui en attendant ce jour. Comment vivre aujourd'hui en attendant ce jour, ce renouvellement? Paul le dit dans sa lettre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Voilà. Voilà comment nous sommes appelés à vivre en attendant ce jour. En attendant ce jour glorieux. Que Dieu nous donne sa grâce, donc, pour vivre en attendant ce jour et pour vivre avec les yeux fixés sur lui et sur les choses qui durent et non pas sur les choses passagères de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.